Pendant qu'on était assis, qu'on était en train de louer le Seigneur, il m'a donné comme une impression pour me dire, c'est comme si je voyais qu'on... Toutes ces promesses sont là, puis ces promesses, il veut qu'on les obtienne, il veut qu'on les saisisse, il veut qu'on les reçoive. Tu sais, des fois, on marche dans notre vie chrétienne, puis on vient tanné, puis on se sent comme à bout de souffle, puis on se sent comme si on se sent comme à marcher en noirceur, puis il n'y a rien qui marche, puis on entend même des voix, des paroles, des suggestions qui nous disent à quoi ça sert. Ça ne sert à rien de marcher, d'en faire plus. Pourquoi que je vais à l'église à soir encore, il y a un bon film, je pourrais être devant dans le film. Il y en a plein de suggestions de toutes sortes qu'on peut entendre quotidiennement, tous les jours, à longueur de la journée. Mais ces suggestions-là ne viennent pas de Dieu. Ça, il faut le réaliser. Si on veut devenir vainqueur dans nos vies, si on veut saisir les promesses de Dieu, si on veut marcher dans la victoire, il faut réaliser ce qui se passe afin de sortir de cette littérature-là. Je ne parle pas pour une personne en particulier, je parle pour tout le monde, parce que je pense que ce soir, c'est le pouls de plusieurs personnes. C'est vraiment ce que plusieurs personnes peuvent sentir. De se sentir abattu, découragé, avec plein de paroles négatives qui viennent nous suggérer toutes sortes de choses. Puis ce soir, le Seigneur, c'était comme s'il me disait, je veux tout vous donner. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà tout mis là pour que vous puissiez marcher dans la victoire et dans la puissance. Son sang a été versé, son esprit est donné, cette nouvelle nature qu'on reçoit de lui. C'est la puissance pour nous donner la force d'avancer. Ses promesses sont toutes là. Il veut qu'on marche dans la victoire comme Jésus marchait, comme ses apôtres marchaient. Mais c'est à nous autres à saisir. C'est à nous autres à croire qui ce qu'on est. C'est à nous autres à prendre ce qui est à nous autres. Puis s'il y a quelque chose qui vient d'une suggestion qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, c'est de résister à ça, comme notre frère Sylvain a dit ce soir. C'est de résister à cela dans le nom de Jésus, de refuser ces suggestions-là, puis de dire, Seigneur, j'en veux encore plus de ta présence. J'en veux encore plus de ton onction. J'en veux encore plus de la révélation de ta parole. Je veux continuer à marcher encore plus fort pour toi. Ça vaut la peine de marcher pour toi. Et ça nous dit dans la parole que de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ça nous dit aussi que les légères afflictions du moment présent, ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il faut s'accrocher à ces paroles-là. Il ne faut pas se laisser décourager. La Bible a dit, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Ça ne dit pas comme notre frère Sylvain, c'est pas Dieu qui va venir résister pour nous autres. C'est nous autres qui devons réaliser qu'on marche dans une autorité supérieure à la sienne, qu'on a résisté contre lui, puis dire qu'on n'en veut plus de ses suggestions, qu'on les rejette au nom de Jésus. Quand on peut se rappeler de l'histoire de Jésus, quand il est en train de dire à ses disciples qu'il fallait qu'il meure sur la croix, puis qu'il serait livré aux païens, puis il mourrait sur la croix, puis tout ça. Puis Pierre arrive, il se pense à bon, Pierre, c'est un toffe, c'est un gars qui était capable, c'est un homme qui était habitué à la pêche, puis on le voit plus loin, qu'il était capable de tirer à lui seul un filet avec 153 grands poissons. Mais là, il dit, non, Seigneur, jamais ça va t'arriver. Jésus, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus savait qu'il fallait qu'il passe par là. Mais la suggestion que Pierre venait de dire, c'était pas la celle du Saint-Esprit, c'était celle de Satan lui-même qui venait d'y mettre ça dans sa bouche. Puis Jésus n'a pas résisté contre Pierre, il a refusé la parole qui venait de Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Chaque fois qu'on entend des paroles qui essayent de nous détourner du chemin que Jésus veut qu'on aille, ça vient du diable. Puis qu'on a refusé ça dans le nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Mensonge ou tentation ou doute ou paresse ou abattement ou découragement. Il faut refuser ça dans le nom de Jésus. Puis là, on prend ses promesses, des promesses qui sont là, puis on se les répète, puis c'est à ça qu'on s'accroche. Jésus dit, celui qui bâtit sur sa parole, c'est comme si tu bâtis sur un roc. La pluie, le vent, le torrent vont se jeter contre cette maison, puis elle va rester debout. Mais celle qui est bâtie sur le sable, c'est celui qui bâtit sur autre chose que la parole de Dieu. Ah, ça ne me tente pas de la réunion en soir. Un vent. Il est jeté à terre. Ça n'y en prenait pas plus que ça. Ou l'autre qui dit, non, le Seigneur veut que je reste fidèle, que je reste au poste, que je garde le cap, que je marche dans ses promesses. Même si on est les vents qui viennent, les épreuves, les choses qui nous attaquent. On est capable de refuser ça puis de rester debout. On n'est pas flottant, mais on est affermi comme un soldat. Amen. Mais Jésus, le Seigneur, il veut tout qu'on obtienne. Ses promesses sont déjà là pour nous autres. Il ne faut pas attendre qu'il nous les redonne, ils sont déjà donnés. Il ne faut pas attendre qu'il nous les acquis encore, puis qu'ils sont déjà acquis, ils sont déjà dans notre héritage spirituel. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'un Dieu céleste, c'est ça, c'est toutes ses promesses, et oui, amen, puis ils sont là, à notre disposition, c'est à nous autres qu'on a juste à les prendre, ils sont là, tout est inclus dans le prix. On va continuer le message selon ce qu'on avait... plusieurs semaines sur le fait que Dieu voulait justement nous exaucer toutes nos prières, mais qu'il y avait certaines conditions, certaines clauses ou certaines choses qu'il pouvait faire qu'on ne reçoive pas de la part du Seigneur. Là, je ne les énumérerai pas toutes les autres, mais si jamais vous dites « Ah, mais j'aimerais ça réentendre toute la série de messages là-dessus, c'est disponible sur cassette, je les ai déjà chez nous. » J'ai pas toute la série, parce que là, c'est le 10e message sur la prière, mais j'en ai 6. On va envoyer le 7e ce soir. Si ça vous tente de les avoir, vous avez juste à le demander à notre sœur qui s'occupe des cassettes, elle va vous les passer. Mais ça va être disponible probablement dimanche. On va reprendre le passage dans 1er Pierre au chapitre 3 pour continuer la pensée d'aujourd'hui. À partir du verset 10. Ça va nous remettre un peu dans le contexte de la prédication de la semaine passée. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Je tiens amen à cela. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On a vu la semaine passée au niveau qu'il fallait vivre d'une façon qui favorisait le regard de Dieu sur nos vies. Chaque fois qu'on avait des paroles méchantes, des paroles ou des colères, ou des chicanes, des disputes, ou on attristait le Saint-Esprit, on pouvait éteindre même l'Esprit. C'est des choses que Dieu est témoin à chaque fois qu'on dit quelque chose. Dieu est témoin, Dieu est en nous. Puis, son action veut agir à travers de nous, mais chaque fois qu'on vit tout croche, on l'attriste, on l'éteint. Puis après ça, on dit que Seigneur, t'es loin, je sens pas ta présence, où ce que t'es. On dirait que mes prières bondissent, puis juste au plafond, ça retombe. Mais c'est pas supposé d'être la condition d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, sa condition, c'est d'être en pleine communion avec le Saint-Esprit, puis de marcher rempli du Saint-Esprit, puis d'avoir un contact direct dans la prière. Puis chaque prière, on marche, on la présente avec foi, puis on le sait qu'elle est entendue, qu'on l'attend de la voir s'accomplir. Ça, c'est la condition d'un vrai enfant de Dieu. C'est ce que Jésus veut qu'on vive, chacun de nous autres. C'est pour ça qu'il a payé sur la croix, pour nous racheter, puis faire de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Des personnes qui se présentent devant le Père et qui présentent des requêtes, c'est toutes des requêtes qui sont entendues et exaucées. Mais si on vit dans des mauvais agissements, comme qu'on voit dans ce passage-là, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu est prêt à nous exaucer. Mais Dieu, on le sait comment est-ce que Dieu est saint. Dieu en horreur le péché. Il nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour dont l'amour qui nous aime chacun de nous autres. Même si on serait tout seul sur la terre, ou même chacun de vous seriez tout seul, Jésus serait quand même venu mourir sur la croix pour pardonner vos péchés. Il nous aime. Il est prêt à nous exaucer, mais quand on vit tout croche, il ne peut pas endurer ça. Il ne peut pas jouer d'un bien-être, d'être dans une pleine communion avec ça. Lui, ça ne marche pas. Et comme j'ai dit aussi à la fin de mon message, j'ai dit, c'est pas que Dieu recherche qu'on soit parfait en tout point. C'est vrai qu'on le vise. Mais le point principal, c'est d'être en règle tout le temps avec le Seigneur. Si jamais on tombe, on lui demande pardon, puis on croit que son sang purifie toute iniquité, puis que là, on est en règle, puis on est encore en mesure de recevoir la plénitude du Saint-Esprit et aussi toutes les promesses de Dieu. Tiens, amen. Si je vous le demande, c'est pour voir si vous écoutez. Mais dites pas amen parce que je vous le demande. Dites-le parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire. C'est la parole de Dieu. C'est ce que je veux dans ma vie. Tiens, amen. Puis le Seigneur entend, puis le Seigneur va le faire. Je crois qu'il est important qu'on répète ça. Parce que même si je l'ai dit la semaine passée, j'en ai parlé depuis plusieurs semaines, ça ne prend pas grand-chose qu'on oublie. Non, c'est pas une chose qui doit être ainsi soit-il. Non. Aïe aïe, ouch. C'est vrai qu'on a besoin, c'est Pierre, je pense, qui dit Genèse 16, de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Il faut que ça revienne souvent dans nos messages pour se tenir réveillé. Vous allez sortir d'ici, là, vous allez être réveillé. Gardez votre réveil. Gardez-vous éveillé. Continuez à lutter et à persévérer dans la même foi. Puis là, présentez-en des requêtes au Seigneur, vous allez voir le Seigneur va agir. Puis le regard du Seigneur va être toujours sur vous. Mais la ligne de conduite générale pour un chrétien, c'est qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est ce qu'on voit ici, qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Fait que si on recherche la paix avec Dieu, en s'éloignant de ce qui déplaît à Dieu, en s'éloignant de ce qui pourra attrister ou éteindre l'Esprit Saint, on recherche la paix, Dieu, il va nous bénir pleinement en ayant un regard favorable sur toute notre vie, puis en ayant un écoute aussi à nos requêtes. Mais dans la même ligne de pensée, de rechercher la paix et la poursuivre, c'est pas juste envers Dieu, c'est aussi envers ceux qui nous entourent. Il y a un passage dans Romains 12, 18 qui dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Des fois, on peut dire, « Oh, mais là, je la recherche, la présence de Dieu. Je la recherche, être en communion avec Dieu. Je la recherche, avoir une vie en règle. » Deux secondes après, on rencontre quelqu'un, puis on le blasse, puis on est prêt à lui sauter dessus, puis on est prêt à se mettre en colère, puis on est prêt à lui dire des bêtises, puis à... Hein? Voyez-vous la différence? Si je veux rechercher la paix, puis je veux la poursuivre, c'est parce que je veux garder un regard favorable que Dieu me regarde tout le temps. Deux minutes après, je suis prêt à sauter sur l'autre à côté de moi. Est-ce que Dieu va être content? Un des points qu'on va voir ce soir qui pourrait être un empêchement de recevoir des exaucements de prière, c'est s'il n'y a pas de pardon dans nos vies. Dans Marc 11, le verset 25 à 26, il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On veut marcher dans des prières efficaces, dans des prières exaucées. On se présente devant Dieu, on est un gars bien spirituel. Seigneur, là on est prêt à lui demander toutes les choses qui nous seraient dues. Là, il dit, si tu es en train de présenter une prière, là, tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut que tu pardonnes tout de suite. Pas pardonner après, quand la prière va être finie, ou attendre une semaine après. Non, si on veut marcher dans un regard qui est favorable de la part du Seigneur, il ne faut pas garder rien contre personne. Dieu nous dit de pardonner avant d'être exaucé. De pardonner avant de présenter même ta requête. Un chrétien ne devrait jamais garder de rancune ou des idées de vengeance ou de réclamer des jugements de Dieu sur d'autres personnes, que ce soit un ami ou un ennemi. Parce qu'il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il n'a pas dit... T'as quelque chose contre ton ennemi ou contre ton frère, c'est contre quelqu'un. Ça veut dire n'importe qui t'aura fait n'importe quoi. Dieu veut pas qu'on garde rancune. Il veut pas qu'on garde non-pardon. Il veut pas qu'on garde des idées de vengeance. Il veut pas même qu'on réclame un jugement de Dieu sur les personnes. Il dit, t'es en train de présenter ta requête, pardonne tout de suite. Notre refus d'accorder le pardon ou de libérer les gens, ça nous garde captifs du jugement de Dieu. J'ai essayé de méditer un peu là-dessus à un moment donné sur qu'est-ce qui pourrait bien se passer si je vis des situations dans ma vie que quelqu'un est injuste envers moi, que là je commence à dire, ben là, je te le pardonnerai jamais, je te le pardonne pas, puis je veux que Dieu tire une vengeance là-dessus. Après ça, je me suis dit que moi, si j'étais en Jésus, j'étais pardonné de mes péchés, j'ai été lavé. Ça nous dit qu'on ne passera pas devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Mais après ça, quand tu penses à ça, tu dis, je tiens que cette personne-là passe devant le jugement de Dieu pour cette faute-là. Je pense qu'à quelque part, que je vais être obligé de passer moi aussi pour passer en même temps que lui, pour aller l'accuser pendant que lui, il va être là pour recevoir les choses. Et je pense que si ce n'est pas notre place d'aller faire la job du diable, d'aller rapporter les choses pour que le jugement tombe sur les autres. Il y en a-tu qui pourra dire et amen là-dessus que ce n'est pas notre place de faire la job du diable, d'aller réclamer un jugement ou une punition sur une autre personne? Oui. Donc, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, puis tu présentes ta prière, ça dit pardonne. Si pardonner, d'après moi, là, c'est premièrement oublier l'affaire, de laisser tomber, de ne pas tenir rigueur, de ne pas alimenter une idée de vengeance ou une idée de la punition ou le châtiment tombe sur lui, à quelque part, je pense que faut laisser ça et s'en remettre. Puis même quand Étienne, quand Dieu a mis des hommes de justice, des hommes de loi qui vont s'arranger avec la justice, puis les choses vont, ils vont sûrement que t'appelles la police pour, puis là il y a une question d'assurance là, quand c'est un cas comme ça. Puis la justice va se faire s'il y a eu vol ou quoi que ce soit, mais est-ce que moi je dois garder ces choses-là et prier pour que c'est ça. Si moi je pardonne, pourra même arriver à pardonner même à celui qui l'a fait. Si ça serait, mettons, un meurtre, Étienne lui-même qui est en train de se faire lapider, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Jésus lui-même est à sa croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense à quelque part, on n'est pas appelé à garder rien. Oui, appelé la police pour que les paperasses... des choses de même zone, est-ce que dans notre cœur, on doit garder quelque chose? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas qu'il faut garder rien, puis même, ça serait de prier pour que cette personne-là change de conduite. Mais il y a un exemple que nous dit dans la parole qui est un petit peu Matthieu 18, verset 23 à 35, qui nous parle encore dans ce point-là. Il dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se met à compter, on lui amena un qui en devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, s'achetant en terre, se prosterna devant lui, puis il dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Il est en train de supplier, il dit, « Là, là, attends, 10 000 talents. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur se laisse... le laissa aller puis lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit puis l'étrangla en disant, « Qu'est-ce que tu me dois? » Son compagnon se jette à terre et supplia, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Là, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé. Alors le maître fait appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » On veut le regard de Dieu sur nos vies. On veut que Dieu dise, c'est mon enfant, je suis fier de lui. Regarde-le comment est-ce qu'il marche, il obéit à ma parole, puis il marche dans mes voies. Puis de son regard est haut sur nous autres, pareil comme qu'il parlait de Job. C'est un homme intègre, puis juste, puis il n'y en a pas d'autre pareil comme lui sur la terre. Dieu t'a fier de Job. comme qui peut être fier de nous, parce qu'on a vu des passages où que Dieu voulait nous rendre capables de faire des œuvres qui lui soient agréables. On a vu ça la semaine passée. Dieu va nous rendre capables, Dieu veut nous rendre capables de vivre des œuvres qui lui soient agréables. Mais si moi, je ne veux pas que ces œuvres-là se vivent dans ma vie, puis je commence à dire, non, je ne pardonnerai pas, puis je veux que cette personne-là, le châtiment tombe sur lui, je veux qu'il soit jugé, je veux... Quand on y pense, l'immensité de la dette que le Seigneur nous a remis, on s'en allait en enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents jour et nuit au siècle des siècles, une fois que tu rentres là, tu ne sors plus de là. Mais il a payé le prix, il nous l'a donné, il nous a remis notre dette. On ne doit plus rien, mais qu'on arrive là au bord, notre facture de péché, c'est marqué « payé par Jésus ». On n'a pas besoin de payer rien, notre dette est remise, puis le Seigneur s'attend à ce qu'on remette la dette de tout le monde. Si on garde des rancunes, qu'on présente des requêtes au Seigneur, il ne faut pas penser que ça va être des prières exaucées. Je pardonne et je m'en remets à Dieu.
La parole de Dieu dit, dans le sens qu'on doit pardonner, c'est là qu'on doit pardonner. Parce que si tu fais du mal, ça, il peut y avoir un
prendre de la situation, on s'enlève pas les conséquences de la situation, mais tu s'enlèves pas qu'on a peut-être besoin de soins aussi, moralement, ou d'encouragement, ou quoi que ce soit. Mais le point de Dieu, c'est faut que tu pardonnes. Oui, faut que tu relâches. Sinon, c'est sûr, comme tu as dit aussi au début, on va traîner quelque chose, on va en souffrir longtemps, et de la part de Dieu, on ne recevra pas si on garde rancune contre les personnes, mais on... C'est sûr que Dieu, il peut agir dans des situations comme tu peux avoir besoin de prière de quelqu'un, puis là, quelqu'un va prier pour toi, tu vas te sentir libéré de certaines affaires, puis la guérison va s'installer. Mais le point, ce que Dieu veut nous emmener, peu importe ce qu'on a vécu, il faut vivre dans le pardon. On va continuer, puis il y a d'autres réponses qui vont peut-être venir dans d'autres versets. Parce que le point central qu'il faut viser, c'est qu'il recherche la paix et la poursuivre. Pour rechercher aussi encore plus loin dans ce sens-là, dans Matthieu 5, le verset 23 à 24, il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, et là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tout à l'heure, c'est quand on se présente à Dieu, puis que là on se souvient qu'on a quelque chose, là on pardonnait à personne, mais là c'est l'inverse. Si on est en train de se présenter devant Dieu, puis on se souvient qu'un autre a quelque chose contre nous autres, de laisser notre offrande là, puis de s'aller se réconcilier avec la personne. Le verset qu'on a vu au début aussi disait, « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Fait que toi, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, si tu, autant que ça dépend de toi, essaie de te réconcilier avant de continuer à présenter tes requêtes au Seigneur. Il faut être en paix, rechercher la paix et la poursuivre. Il faut aller voir la personne qui a quelque chose contre nous autres, puis la régler. Si la personne nous écoute, la situation est réglée. Si elle garde la rancune, j'ai fait ce que j'avais à faire autant que ça dépendait de moi, j'ai cherché à réparer la situation, le Seigneur, il dit, c'est correct, là, tu peux te présenter devant moi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est encore dans le même sens au niveau des prières. Dans Matthieu 18, le verset 21 à 22, il dit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ça veut dire 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, il peut venir 490 fois à te faire des offenses, puis le plan de Dieu, c'est que tu les pardonnes toutes, que tu passes toujours par-dessus tout. Un des points, c'est sûr que dans la force humaine, c'est quasiment impossible de vivre ça. Un des points qui nous est dit que la charité couvre une multitude de péchés, c'est que quand tu vis avec la force de Dieu, parce que la charité, c'est quelque chose qui est communiqué de la part de Dieu, ça peut te donner la force de passer à travers et d'être capable de passer par-dessus les fautes des autres. Mais il faut être alimenté de cette charité-là, de cet amour-là. Puis ce mot-là, charité, ça se retrouve dans le fruit de l'esprit. Si on vit dans notre chair, c'est sûr que c'est impossible de marcher dans ce sens-là. C'est sûr. C'est sûr que ça va nous faire mal s'il nous arrive une situation que quelqu'un nous a fait du mal. Mais il faut en arriver à vivre dans l'Esprit de Dieu et d'aller chercher la force que Dieu pourra nous communiquer afin d'être capable de passer à travers de ces situations-là et de tout passer par-dessus. Pardonner ceux qui nous ont fait du mal, pardonner même à ceux qui nous en veulent, pour essayer de rectifier ça. Puis même si ça sera 490 fois que le gars vient me faire des fautes, Jésus veut qu'on pardonne. Prenez ça comme le premier point, de faire attention à cela, que ça peut être un empêchement à ce qu'on reçoive dans nos requêtes. Puis pour le reste, si quelqu'un a vécu de quoi de bien grave, vous êtes mieux de demander de l'aide pour passer à travers de cette situation-là. D'aller voir quelqu'un qui est expérimenté, qui va prier avec vous, qui va faire sortir les points, vous aider à passer à travers de cette situation-là. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Un autre point, c'est des problèmes dans le couple. Dans 1 Pierre 3, le verset 7, ça nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi irriter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. » On veut que le regard de Dieu soit avec nous. On veut que Dieu exauce nos prières. Puis Dieu veut nous les donner. Mais il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Puis il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand on chicane avec notre femme, ça l'attriste le Saint-Esprit. Quand on se met en colère contre notre femme, ça l'attriste le Saint-Esprit. Quand on écrit des bêtises à notre femme, ça attriste le Saint-Esprit. C'est... Ou le contraire, si la... Si notre femme, elle nous crie des bêtises, si notre femme, elle se met en colère contre nous autres, mais dans ce passage-là, ça nous dit, hommes, usez de sagesse envers vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Je ne veux pas dire que les femmes sont un sexe plus faible. Non. Mais la parole de Dieu le dit. Pourquoi? Pourquoi? Non, ça ne veut pas dire être faible physiquement ni moralement. Jusqu'à, j'ai pas été mesuré le mot grec dans lequel est tendu que le mot faible, c'est fragile, sensible. Ça, c'est des bons points. Puis je crois que ça rentre dans la définition. Mais il faut en arriver là que dans notre vie de couple, d'user de sagesse afin de tout régler au fur et à mesure les problèmes qui se présentent, d'être que l'homme ait de la sagesse pour être capable de dire les bons mots pour ramener les situations. C'est vrai, là. Oui. Ça rapporte son rôle de chef spirituel, ça rapporte parce que Dieu dit. Il dit dans sa parole, ça a commencé avec Adam et Ève, que Dieu avait donné toute l'autorité à Adam. Il avait dit de garder le jardin, de le cultiver. Il aurait dû garder. Mais là, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Dieu, dans la parole de Dieu, nous dit aussi que l'homme, c'est le chef de la femme. C'est pas qu'il ait été le boss, puis qu'il veut l'écraser, puis la fouetter, puis l'exiger qu'elle soit son esclave. C'est pas ça, pantoute. Le sens, c'est, pareil comme moi, je suis soumis à mon patron. L'harmonie continue à régner. Puis s'il y a de quoi qui doit être fait, comme prendre autorité spirituellement, chasser les esprits qui agissent, il faut réaliser que c'est vrai, que c'est là, puis qu'on doit le faire. C'est notre devoir en tant que mari d'avoir une protection spirituelle, d'élever une protection spirituelle dans notre foyer. S'il y a des situations qui s'est passées, de faire les premiers pas, puis d'aller voir à ce qu'on puisse être réconcilié. Avant de m'en venir tout à l'heure, j'ai demandé à ma femme, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui fasse obstacle à mes prières? Puis ça, si on part avec cette idée-là, on peut le demander à tous les jours. Pourquoi pas? Est-ce que notre femme est contente de notre vie? Si on part avec cette idée-là que je vais être en paix avec tous les hommes, puis je vais être en paix dans mon foyer, on a tout pour recevoir le regard de Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on veut voir le Seigneur dans nos vies? Est-ce qu'on veut voir le Seigneur répondre à nos prières? Est-ce qu'on veut voir le Seigneur agir dans les situations? Est-ce qu'on veut voir le Seigneur mettre sa main sur nos vies, sur la vie de notre famille, sur la vie de notre Église, sur la vie de nos frères et sœurs? Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Un exemple pour l'idée de rechercher la paix, j'avais lu un livre là-dessus à un moment donné sur le chemin du calvaire, puis il nous donnait l'image de Jésus quand il s'est sorti de l'eau à son baptême. L'Esprit de Dieu est venu comme une colombe, puis s'est posé sur lui. Parce que Jésus est un homme paisible, un homme de paix, la colombe a pu se poser. Mais si ça aurait été un homme qui était toujours en train de crier et de dire des bêtises à tout le monde, pensez-vous qu'un oiseau aurait été capable de se poser sur lui? Mais ça, c'est une image qu'ils nous ont donnée pour nous faire comprendre que marcher dans la paix, puis je marche dans la paix dans mon foyer, je marche dans la paix avec mes frères et sœurs, je marche dans la paix avec envers tous ceux qui nous entourent, que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu peut reposer sur nous. Et Dieu va être content de la manière qu'on marche. Il y a une promesse qui nous est donnée, une promesse sur la prière, je termine avec ça. Mais c'est encore une promesse que Dieu garantit qu'il va le faire, sauf que ça dépend encore de nous. Et toutes les promesses de Dieu, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu les a déjà données, ces promesses. Elles sont déjà toutes écrites dans sa parole. Mais la promesse que sur la prière, encore, 2 Corinthiens 7, 14, non pas Corinthiens, 2 Chroniques 7, 14, ça dit... « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Toutes les promesses, Dieu veut nous les donner, en autant qu'on veut marcher d'une façon à ce que le regard de Dieu soit sur nous. Quelqu'un amène à quelque part.